Deutsche Welle Afrique 7 jours.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'Afrique 7 jours, la rétrospective de l'actualité africaine de la semaine. Au micro, Eric Topona et au menu de ce magazine, l'Afropresse ou la revue de presse hebdomadaire des thèmes africains traités par les éditorialistes allemands. Et ce soir, c'est Koussivi Tchassou qui a lu pour nous les journaux et Koussivi reviendra notamment sur la visite en début de semaine du président américain Barack Obama en Éthiopie. Afrique 7 jours, c'est aussi la rubrique Blogosphère qui est la tribune dédiée aux blogueurs francophones. Et un blogueur est déjà en ligne de Bujumbura, la capitale du Burundi, Jean-Régis Ndouimana. Bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous les auditeurs de la radio de Sud-Afrique.
Voilà, je le disais, vous êtes blogueur burundais, mais pas seulement, Jean-Régis Ndouimana.
Pas seulement parce que, tu sais, les réseaux sociaux font de nous des internationaux, parce que un tweet ou un post sur SoundCloud, sur Facebook, est reçu en même temps à Kinanira, à Moussaga, en Allemagne, en Afrique, partout et en Europe, en même temps.
Ouais, donc à vous entendre, vous êtes donc très très actif dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez eu le temps de suivre les programmes que la Deutsche Welle, la rédaction francophone notamment, a réalisé sur le Burundi?
Oui, on suit avec intérêt. Vous savez, les médias internationaux, c'est ce qui nous reste de plus libre et de sources d'informations plus ou moins fiables. Tant que vous avez des correspondants même ici. Et puis, vous savez, certaines de vos émissions sont téléchargeables sur Internet, donc on peut télécharger et disséminer ces informations dans nos téléphones, comme dans WhatsApp. Vous savez, WhatsApp est devenu la première source d'information ici à Bujumbura. Alors, tout est téléchargé, tout est partagé à une émission de Eric ou de n'importe quelle radio, média international.
Ça nous va droit au cœur. Jean-Régis Ndouimana, ne quittez pas, puisque je reviens à vous tout à l'heure dans la rubrique Blogosphère, qui est donc la tribune dédiée aux blogueurs africains. Et c'est dans quelques minutes, juste après le kaléidoscope de l'actualité africaine de la semaine.
Voilà, merci.
Nous commençons donc par le discours prononcé mardi dernier par Barack Obama, le président américain, dans le hall Nelson Mandela, la salle donc de conférence au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Devant des chefs d'État, des diplomates et des membres de la société civile, il a appelé le continent à éradiquer la corruption, exhorté le monde à changer de regard sur l'Afrique et à bâtir avec elle de véritables partenariats. L'Assemblée l'a également applaudi et surtout quand il a critiqué les dirigeants africains qui s'accrochent au pouvoir. On écoute Barack Obama.
Les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand des dirigeants refusent de quitter le pouvoir à la fin de leur mandat. Quand un dirigeant essaie de changer les règles au milieu de la partie, simplement pour rester en poste, il s'expose à l'instabilité et à la discorde comme nous l'avons vu au Burundi. Comme l'Union africaine a condamné les coups d'État et les transferts illégitimes de pouvoir, l'autorité et la voix forte de l'UA pourraient aussi aider les peuples d'Afrique à s'assurer que les dirigeants africains respectent les limitations du nombre de mandats et leur constitution. Personne ne devrait être président à vie.
Voilà, nobody should be president for life. Personne ne devrait être président à vie. C'était les propos de Barack Obama, le président des États-Unis, mardi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. L'actualité cette semaine, c'est aussi les attentats terroristes à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun. Ces attentats sont attribués au groupe islamiste Boko Haram, qui se fait désormais appeler État islamique, province d'Afrique de l'Ouest. Dans la foulée, une batterie de mesures ont été prises par les autorités camerounaises, mais que critique Guy Baye Gatama. Il est le directeur de publication de L'Œil du Sahel. C'est un billet hebdomadaire d'information qui suit l'actualité du Nord Cameroun.
Le gouvernement réagit au lieu d'anticiper. Évidemment que les terroristes, dans ces conditions, auront toujours une longueur d'avance. Vous interdisez la burqa, ils ne porteront plus la burqa, ils porteront autre chose. Le gouvernement doit prendre des mesures beaucoup plus fortes. Réformer, par exemple, les services de sécurité, où une forte corruption est un grand allié pour les terroristes. Il faut également sensibiliser la population pour qu'elle, d'abord, l'unité, la vigilance et puis éviter la stigmatisation. Parce que aujourd'hui, dans les contrôles de police, dans les contrôles des forces de sécurité, si vous aviez un vêtement qui peut porter à croire que vous appartenez à telle ou telle autre religion, vous pouvez faire l'objet d'une fouille plus poussée que si vous aviez un autre vêtement.
Le directeur de publication du billet hebdomadaire camerounais L'Œil du Sahel, Guy Baye Gatama. Du Cameroun, on met le cap sur le Burundi, hein, où depuis la réélection sans surprise de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat, les regards sont désormais tournés vers la formation du futur gouvernement d'Union nationale. Selon la constitution du pays, a automatiquement le droit de participer à ce gouvernement. Toute formation politique ayant obtenu au moins 5% des voix lors des élections législatives et communales, une disposition qui disqualifie de fait les leaders de la coalition Mizero Yabarundi, dont les candidats se sont présentés à titre d'indépendants. Mais selon le porte-parole de cette coalition, ce mécanisme constitutionnel peut bel et bien être contourné au regard de la situation actuelle que vit le pays. Tassien Sibomana.
Le CNDD est en difficulté pour mettre en place le gouvernement. C'est pour cela qu'il revient à la raison pour dire finalement, si Amizero Yabarundi accepte implicitement, ce sera le FNL et l'UPRONA qui auront siégé au gouvernement. C'est pour cela qu'il est prêt à fermer les yeux et j'ai entendu même qu'il commence à mijoter un texte tel un arrangement constitutionnel pour permettre justement la mise en place de ce gouvernement.
Voilà, c'était le porte-parole de la coalition Mizero Yabarundi, Tassien Sibomana, dans une coalition dont fait partie l'opposant Agathon Rwasa, qui a été élu jeudi dernier premier vice-président de la nouvelle Assemblée nationale installée lundi. Et nous allons justement y revenir tout à l'heure avec notre invité dans la rubrique Blogosphère. C'est donc l'heure de passer à la rubrique Blogosphère, la tribune dédiée aux blogueurs francophones, notamment africains. Et actualité oblige, nous recevons un blogueur burundais.
Blogosphère.
Comme convenu, nous retrouvons Jean-Régis Ndouimana, qui est un blogueur burundais en ligne de Bujumbura. Rebonsoir, Jean-Régis Ndouimana.
Bonsoir, monsieur Eric.
Voilà, l'actualité dans votre pays, c'est justement ce que d'aucuns appellent un revirement politique spectaculaire de la principale figure de l'opposition, Agathon Rwasa, lequel a siégé contre toute attente lundi dernier dans la nouvelle Assemblée nationale, alors même qu'il avait appelé à boycotter les élections communales et législatives dont est issue l'actuelle législature. Mieux, Agathon Rwasa a été élu jeudi dernier premier vice-président de l'Assemblée nationale, et ce sont justement les députés du CNDD-FDD qu'il combattait, qui l'ont élu. Comment est-ce que les Burundais, dans leur ensemble, réagissent à cette nouvelle donne, Jean-Régis Ndouimana?
Alors,
cette nouvelle donne politique, ça aura été une très grande surprise ici dans la capitale burundaise. Comme vous le savez, dans la capitale burundaise, Bujumbura, cela se trouve sur la capitale politique même. Alors, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la rue, dans le mouvement du troisième mandat, c'était une grande surprise, même dans les rangs même du FNL. À en croire certains médias, on a entendu certains membres du FNL dire qu'ils sont surpris, qu'ils sentent un peu de trahison si M. Agathon Rwasa continue dans cette stratégie de s'allier avec Nkurunziza Pierre. Alors, c'était une grande surprise, mais aussi on trouve une certaine poche d'analystes ou certaines des gens qui vont au-delà des faits, qui disent, voilà, peut-être c'est une stratégie adoptée par M. Agathon Rwasa afin de s'approcher et de bloquer à l'intérieur. Ça, c'est toute notre histoire.
Oui, justement, la plupart des analystes politiques que nous avons eus se sont posé la question suivante. À quoi joue Agathon Rwasa? Et si je vous repose cette question, Jean-Régis Ndumana, que répondrez-vous?
À quoi joue Agathon Rwasa? C'est, premièrement, satisfaire certains de ses intérêts particuliers qu'il a. Après de longues années, à l'intérieur de sa maison sans pouvoir bouger. Aujourd'hui, il a plus ou moins une unité parlementaire qui, avec ce poste-là, qui lui donne beaucoup plus de mouvement et de champ d'action. Mais est-ce qu'à l'intérieur, pourra-t-il vraiment bloquer, puisqu'il ne peut pas bloquer même au sein de l'Assemblée nationale? Alors, quelle sera sa marge de manœuvre pour pouvoir s'ériger en sérieux obstacle? En Nkurunziza, ça c'est une très grande question qui ne trouve pas jusqu'à l'heure qu'il ait de bonnes réponses, puisqu'on sait très bien que le Burundi aujourd'hui est sous un régime autoritaire, il y a un état de non-droit. Alors, puisqu'un état de non-droit, il n'y a pas de droit, alors qui pourra vraiment contrer les manœuvres politiques du régime en place? C'est là où se trouve la question. Et alors, pourquoi Rwasa s'allie à quelqu'un dont il sait très bien qu'il ne pourra pas lui donner manœuvre politique pour se positionner. Mais alors, ceci dit, c'est comme on a déjà vu dans l'histoire politique du Burundi, où les politiciens aujourd'hui sont des opposants et aujourd'hui s'allient avec celui qui était jusque-là leur ennemi, je dirais. Alors les gens ont dit, voilà, ça c'est la énième trahison que le Burundi, que le mouvement anti-troisième mandat vient d'enregistrer dans les rangs.
Merci beaucoup, Jean-Régis Ndouimana, en ligne de Bujumbura. Nous allons bien évidemment suivre la suite des événements au Burundi et notamment donc la nouvelle donne politique avec le rapprochement entre le principal opposant Agathon Rwasa avec le pouvoir CNDD-FDD qu'il combattait jusqu'encore récemment.
Ça, c'est vraiment l'agenda de la semaine prochaine. Suivre Rwasa, Agathon et Nkurunziza, ça sera vraiment intéressant sur le plan politique au Burundi.
Voilà. Bonne fin de semaine à vous et à très bientôt sur les antennes de la Deutsche Welle.
Merci beaucoup à vous aussi.
Dernière rubrique d'Afrique 7 jours, l'Afropresse ou le commentaire de la presse allemande sur l'actualité africaine. Et Kosivi Tiassou, vous évoquez notamment la visite du président américain Barack Obama. C'était en début de semaine à Addis Abeba en Éthiopie. Addis Abeba qui est donc le siège de l'Union africaine.
Ditak Etsetoun a passé en revue le discours du président Obama au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Le président américain a tout dit. Personne n'est au-dessus de la loi, titre le journal de Berlin, faisant allusion aux présidents africains qui changent la constitution de leur pays en vue de s'éterniser au pouvoir. La démocratie est en danger du moment où un dirigeant en fin de mandat refuse de céder le pouvoir. Ces propos d'Obama ont soulevé un tonnerre d'applaudissements et de cris de joie dans la grande salle Mandela au siège de l'Union africaine. Barack Obama a dit des choses que certains ont essayé d'exprimer dans leur pays, sauf qu'ils se sont retrouvés en prison, rappelle le quotidien berlinois. Pour Berliner Zeitung, le président américain n'a pas raté l'occasion de critiquer les dirigeants africains lors de son premier discours devant l'Union africaine. Dans son adresse sur l'avenir de l'Afrique, Barack Obama a appelé les dirigeants du continent à se conformer à la limitation des mandats. « Je me tiens devant vous comme un Américain fier, mais aussi en tant que fils de l'Afrique ». Par cette phrase, Obama a résumé l'essentiel de son voyage, d'après Berliner Zeitung. Beaucoup d'applaudissements pour beaucoup de critiques, titre de son côté, Süddeutsche Zeitung. Le quotidien munichois souligne au passage que bon nombre de défenseurs des droits humains ont critiqué le président Obama pour ses propos jugés trop conciliants à l'endroit de l'Éthiopie, un pays où, selon eux, les autorités musellent la presse. Aucun sujet n'a été laissé de côté, la corruption, la mauvaise gouvernance ou encore le terrorisme en Afrique. Le journal de Munich évoque également la pique d'Obama en direction de la présence chinoise en Afrique. Il ne suffit pas d'améliorer des infrastructures avec la main-d'œuvre étrangère et d'exploiter les ressources minières du continent. Le partenariat qu'offrent les États-Unis est un partenariat gagnant-gagnant, des propos d'Obama rapportés par la Süddeutsche Zeitung. Ditak Tsetun est aussi revenu sur la mort du lion Cécile au Zimbabwe. Walter Palmer, le riche dentiste qui a tué le célèbre félin, a provoqué une vague d'indignation planétaire, écrit le journal.
L'Afropresse vous était présentée par Kosivi Tiassou. Merci Kosivi et bonne fin de semaine à vous. Et c'est ici que s'achève Afrique 7 jours. C'était Eric Topona à la présentation. Je vous laisse en compagnie du reste des programmes de la Deutsche Welle, la radio internationale allemande. Au revoir et à la semaine prochaine.